Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du lundi 18 mai 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici le titre. Élection présidentielle au Burundi ce mercredi, les candidats ont tenu leur dernier meeting. La CPI refuse de dédommager Jean-Pierre Bemba, acquitté après avoir passé 10 ans en prison. Démission du premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, après des mois de tensions politiques. Décès du chef de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire des suites du coronavirus. Et puis les pays membres de l'OMS demandent une réforme de l'agence onusienne lors d'une assemblée générale virtuelle. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le Burundi organise des élections générales ce mercredi en dépit de l'épidémie de Covid-19. C'est un scrutin sous tension qui se tient sans le sortant Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 et qui a décidé de passer la main. Jacques Aristide.
Pour le scrutin présidentiel, le général Évariste Ndayishimiye est le porte-drapeau du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il est présenté comme l'héritier du président sortant, Pierre Nkurunziza. La campagne a été âpre et son principal rival parmi les 6 autres candidats, Agathon Rwasa, a mobilisé les foules. Agathon Rwasa est issu du plus ancien mouvement rebelle du pays, le Palipé Hutu FNL, dont il a pris la tête au début des années 2000. Le peuple ne se laissera pas voler sa victoire, a-t-il averti, tandis que le parti au pouvoir a déjà fait savoir qu'il n'envisageait rien d'autre que de gagner. La campagne a mobilisé des foules nombreuses, avec pour toute mesure de prévention des seaux d'eau et du savon. Le Burundi n'a pas imposé le confinement à ses 11 millions d'habitants. Le gouvernement a expulsé 4 experts de l'OMS, les accusant d'ingérence dans les affaires intérieures du pays. Le pays tente de sortir d'une crise politique meurtrière, née de la candidature controversée du président Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015. Les violences ont fait au moins 1200 morts, d'après un bilan de l'ONU en 2017, et ont poussé à l'exil quelque 400 000 personnes au plus fort de la crise.
La Cour pénale internationale a rejeté ce lundi la demande de dédommagement de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en 2018 après avoir passé près d'une décennie en détention. Son avocat avait annoncé en mars 2019 demander plus de 68 millions d'euros d'indemnisation et dommages et intérêts. Les juges ont considéré que M. Bemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste et ont donc refusé de lui accorder un dédommagement, a annoncé ce lundi la CPI. Le premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, rend le tablier après des mois de pression sur lui. Il a annoncé sa démission suite à une crise politique provoquée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ancienne épouse en 2017. « J'ai décidé de vous annoncer personnellement que je quitte mes fonctions de premier ministre du Lesotho. Je voulais que vous l'entendiez de la bouche du cheval », a déclaré à la presse M. Thabane depuis sa résidence, sans préciser quand prendra effet sa démission. Au Nigeria, au moins 20 civils ont été tués, 14 autres blessés dans une attaque menée par des combattants de Boko Haram contre un village du nord-est du Nigeria. Selon des miliciens d'autodéfense et des habitants, les insurgés ont lancé des roquettes sur le village de Gajigana dans l'état du Borno, en proie à une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de 10 ans, alors que les habitants s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan. Le guide de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire est décédé hier des suites du coronavirus. Le cheikh Al-Aimar Bouakari Fofana était âgé de 77 ans. Son portrait avec Aïcha Diarra à Abidjan.
Le cheikh Bouakari Fofana est né le 21 février 1943 à Djamé, commune d'Abidjan. Il parlait et écrivait parfaitement le français, l'arabe, l'anglais et le malinké. Ce polyglotte titulaire d'une maîtrise en sciences commerciales de l'université Al-Azhar en Égypte, il va gravir tous les échelons au sein de la société ivoirienne de banque. En plus de ses fonctions, Bouakari Fofana fut aussi imam principal de la mosquée des deux plateaux à Djamé à Abidjan. Il était aussi porte-parole du conseil supérieur des imams. Des mosquée des affaires islamiques en Côte d'Ivoire avant d'en prendre la tête après plébiscite de ses pères ivoiriens. Boakary Fofana ou Aboubakar Fofana a joué un rôle capital dans la structuration de l'islam moderne en Côte d'Ivoire. Il est à l'origine de la mise en place de nombreuses associations et institutions telles que la radio Al-Bayan, le Conseil national islamique. Très écouté, il a été souvent sollicité pour faire passer des messages de paix et de réconciliation entre les Ivoiriens. Aïcha Diarra à Abidjan pour VOA Afrique.
En Libye, les forces du gouvernement d'Union nationale annoncent avoir repris la base aérienne stratégique d'Al-Watiya, située à 140 km au sud-ouest de Tripoli. Avec fierté et honneur, nous déclarons la libération de la base militaire d'Al-Watiya de l'emprise des milices criminelles et des mercenaires terroristes, a annoncé Faiz al-Sarraj, le chef du GNA basé à Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, n'ont pas réagi encore à cette annonce qui intervient après plusieurs tentatives. La base était utilisée par les forces pro-Haftar pour faire décoller leurs avions. En Algérie, un chef de file du mouvement de contestation Hirak a appelé lundi à sa sortie de prison à la libération de tous les militants détenus et à la reprise des manifestations après la pandémie de nouveau coronavirus. « Ma liberté ne sera complète qu'après la libération des autres détenus », a déclaré Abdelouad Fersaoui, opposant et militant actif du Hirak. Il avait été condamné le 6 avril à un an de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Hier dimanche, la peine a été réduite en appel à 6 mois ferme qu'il a déjà purgé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé s'est ouverte aujourd'hui virtuellement pour la première fois de son histoire. Plusieurs pays ont appelé à ce que le futur vaccin contre le coronavirus soit un bien public. Ils appellent aussi à une réforme de l'OMS, Clermont Ingebourg.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a critiqué les pays qui ont ignoré les recommandations de l'OMS, estimant que le monde payait aujourd'hui au prix fort. Il a ajouté que le virus s'est répandu dans le monde et se dirige vers les pays du Sud, où il pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs. Il a appelé à un effort multilatéral énorme face à cette tragédie. Accusé par l'administration Trump d'avoir tardé à réagir, la Chine a promis par la voix de son président Xi Jinping de partager un éventuel vaccin et d'allouer 2 milliards de dollars au combat mondial contre le Covid-19. Malgré l'escalade de tensions entre Washington et Pékin, les pays espèrent adopter une résolution qui réclame l'accès universel, rapide et équitable à tous les produits nécessaires à la riposte contre la pandémie. Les débats sur la participation de Taïwan comme observateur ont été reportés. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dénoncé l'absence d'indépendance du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, accusé d'avoir choisi de ne pas inviter Taïwan sous la pression de la République populaire de Chine.
L'échec de l'OMS face à la pandémie a coûté de nombreuses vies, a ajouté de son côté le secrétaire américain à la santé Alex Azar au premier jour de l'Assemblée annuelle de l'organisation. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 315 000 morts dans le monde et au moins 4 700 000 infections. Alors que rôde le spectre d'une deuxième vague, plusieurs pays ont franchi ce lundi une nouvelle étape dans le déconfinement pour relancer des économies asphyxiées. Eric Manirakiza.
L'Italie a vu adopter un confinement total de sa population. L'heure est venue de pouvoir déguster un espresso sur une terrasse. La basilique Saint-Pierre au Vatican ainsi que l'acropole d'Athènes ont rouvert lundi. En France, certains collégiens ont retrouvé les bancs de l'école dans les régions les moins touchées. Du Portugal à l'Azerbaïdjan, en passant par le Danemark, l'Irlande ou l'Allemagne, plusieurs autres pays ont rouvert restaurants, cafés et terrasses, dont les fameux Biergarten, les brasseries en plein air de Bavière. Aux États-Unis, les trois géants de l'automobile reprennent la production lundi. Le président américain Donald Trump plaide pour un rapide retour à la normale. L'Inde, à l'inverse, a prolongé jusqu'à fin mai les mesures de confinement. Le Japon a confirmé être entré en récession et a fermé l'emblématique Mont Fuji, rend d'honneur en raison du coronavirus.
Le laboratoire américain Moderna a annoncé ce lundi des données intérimaires positives de la phase initiale des essais cliniques de son projet de vaccin contre le nouveau coronavirus. Les essais portent toutefois sur un petit nombre de volontaires. Le vaccin a semblé susciter une réponse immunitaire chez 8 personnes à qui il avait été administré, selon un communiqué du laboratoire. La phase 2, sur un plus grand nombre de personnes, doit commencer prochainement. Et selon Moderna, la phase 3, la dernière et la plus importante, va valider l'efficacité du vaccin. Donc cette phase va démarrer en juillet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Ekia Balou.
Au Soudan, le taux d'inflation a atteint 99% en avril du fait de la hausse des prix des denrées alimentaires, a annoncé samedi le Bureau central soudanais des statistiques. Ce taux était déjà monté à 82% le mois précédent, mais l'augmentation des prix des céréales, de la viande, du lait et du pain a accru l'inflation. Malgré la transition politique au Soudan, l'économie traverse une crise profonde, l'inflation galopante, la rareté des devises étrangères et l'énorme dette publique figurent parmi les défis les plus pressants du Soudan. Le Nigeria a saisi un avion britannique accusé d'avoir violé l'interdiction des vols commerciaux pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, a annoncé hier le ministre nigérian de l'aviation, Adi Sirika. Le ministre a affirmé sur son compte Twitter que la compagnie Flair Aviation a été autorisée à opérer des vols humanitaires mais à effectuer des vols commerciaux. Ni la compagnie ni l'ambassade britannique au Nigeria n'ont pour l'instant réagi à cette saisie.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. La CAF a décidé d'anticiper le paiement de la dernière tranche des primes prévues pour les clubs participants à ces compétitions interclubs pour la saison 2019-2020. Cette décision permettra de réduire la charge financière des 32 clubs ayant atteint les phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Les clubs recevront leur paiement sur la base des montants établis pour chaque compétition de la phase initiale au quart de finale, avant la suspension des deux compétitions pour une durée indéfinie. Le minimum garanti pour les clubs participants à la Ligue des Champions est de $550,000 et $275,000 pour la Coupe de la Confédération. En temps normal, les clubs reçoivent leurs primes pour les compétitions interclubs à la fin de la saison. En Égypte, le championnat de première division 2019-2020 a été annulé. Il avait été suspendu à la 18e journée. Sur les 17 clubs de l'élite, 11 ont voté pour un arrêt définitif et les 6 autres pour une annulation pure et simple. La fédération a alors décidé de suivre la minorité pour annuler la saison. Mais Al Ahly et Mokaouloun, respectivement premier et deuxième avant la suspension du championnat, sont qualifiés pour la Ligue des Champions CAF, tandis que le Pyramide FC et le Zamalek vont disputer la Coupe CAF. En Europe, par contre, ce fut un week-end de reprise douloureuse en Bundesliga pour Schalke 04. Le club de l'international sénégalais Salif Sané s'est lourdement incliné samedi 0-4 dans le derby de la Ruhr devant le Borussia Dortmund pour le retour du championnat d'Allemagne. Salif Sané et son équipe ont suivi le match. Le défenseur sénégalais effectuait d'ailleurs son retour après plusieurs mois d'absence. Pendant ce temps, en Espagne, les clubs ont repris l'entraînement collectif par petits groupes. Cette reprise s'inscrit dans la phase 3 du plan de désescalade progressif voulu par le gouvernement, qui autorise des groupes de 10 joueurs au maximum. Les joueurs avaient repris l'entraînement individuel à partir du 8 mai, avec un maximum de 6 joueurs sur le terrain en simultané. Le président de la Liga, Javier Tebas, espère une reprise du championnat à partir du 11-12 juin. Ici aux États-Unis, pour finir, une paire de baskets Air Jordan 1 portée en match par Michael Jordan a été vendue dimanche pour $560,000, un record absolu pour des baskets. Ces deux chaussures rouges, blanches et noires, fabriquées en 1985 et autographiées par Michael Jordan, ont détrôné la Moon Shoes, l'une des premières paires produites par l'équipementier Nike et vendue en juillet 2019 pour $437,500. La paire de Air Jordan 1 Chicago est le premier modèle spécialement créé par Nike pour Michael Jordan et porté par le joueur lors de sa première saison en NBA sous le maillot des Chicago Bulls. À la différence de la paire de Air Jordan 1, les Moon Shoes vendues l'an dernier n'avaient jamais été portées.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Diarra, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le présumé génocidaire rwandais Félicien Kabuka a été arrêté samedi près de Paris et écroué. Cela fait 25 ans que l'homme était en cavale et il était classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde. Retour sur le profil de cet homme présenté comme le financier présumé du génocide rwandais. Bagassikoura a joint à Paris le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier.
C'était le milliardaire rwandais. Avant le génocide, il était bénéficiant de facilités douanières, etc. Il avait constitué une énorme fortune. Et il s'est servi de cette fortune, notamment pour préparer le génocide des Tutsis, à la fois en finançant les groupes de miliciens Interahamwe, en achetant des tonnes et des tonnes de machettes entre 1993 et 1994, qui ont été distribuées à la population et qui ont servi, comme chacun l'imagine.
Et il a aussi financé la fameuse radio des Mille Collines.
Il était le principal financier de la radio des Mille Collines et même le directeur de cette radio. On possède des vidéos où on le voit discuter avec le ministre de l'Information, Faustin Rutshokoza, qui avait convoqué Félicien Kabuga et Ferdinand Naïmana pour leur reprocher le ton très très violent et très haineux de la RTLM. Et Félicien Kabuga défendait bec et ongle sa position et la capacité de la radio à appeler à la haine des Tutsis. Donc son rôle est parfaitement documenté également sur cet aspect, sur la RTLM.
Comment un homme comme ça a pu échapper à la justice internationale depuis toutes ces années?
Il disposait de moyens financiers, comme je l'ai dit, extrêmement importants et d'un réseau d'aide à l'étranger qui reste à identifier clairement. On sait qu'il a failli être arrêté au Kenya à deux reprises. La deuxième fois, l'homme qui l'avait indiqué au tribunal pénal international a été assassiné à son domicile. Donc vous voyez, un homme extrêmement dangereux. Et malgré la prime de 5 millions de dollars offerte par le gouvernement américain, personne n'avait parlé jusque récemment. Il y a quand même des raisons de supposer que c'est pour obtenir la prime qu'un membre de son entourage a dénoncé.
Et est-ce qu'il y a d'autres personnalités de ce rang-là qui sont toujours au large?
Eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le fait que la justice française n'a toujours pas documenté le rôle d'Agathe Abdiaïmana, qui réside en France, au sud de Paris. Agathe Abdiaïmana, qui est la veuve du président Abdiaïmana, tué en 1994 dans un attentat qui a donné le signal du génocide. Et il faut préciser encore une autre chose qu'on a du mal à comprendre. C'est que Félicien Kabuga avait une femme Tutsi, tout comme le capitaine Sidi Kangwa qui a été condamné il y a deux ans définitivement en France, tout comme le colonel Nsengi Yumba, tout comme le colonel Bagosora, etc. Et on voit bien, il faut le dire, il faut le répéter, que chez ces gens-là, la haine des Tutsi était une haine politique, ce n'était pas la haine du bas-peuple. Eux, ils se sont contentés d'organiser le génocide pour des raisons politiques, pas pour des raisons affectives. Puisque même avait des enfants qu'on aurait pu qualifier de métis si on rentrait dans leur idéologie des races.
Le journaliste et écrivain français Jean-François Dupaquier, auteur du livre L'agenda du génocide.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
De nombreuses personnes décédées du coronavirus se sont enterrées sans funérailles ni avec les hommages si chers dans certaines sociétés africaines. Le contexte ne s'y prête plus à cause des mesures qui rendent difficile, voire impossible, la manipulation des dépouilles, l'organisation des levées de corps, veillées, rituels et autres cérémonies funèbres. Les explications avec Mouhamadou Oumfa.
Pour de nombreuses familles, perdre un proche des suites du coronavirus est une redoutable preuve. L'on a eu droit à des spectacles de corps enterrés rapidement le jour même du décès par des personnels sanitaires encagoulés dans les équipements de protection individuelle. Pour Thierry Roland Enorme, Camerounais diplômé en sociologie, c'est un choc culturel pour de nombreuses familles.
Le deuil en Afrique obéit à un certain nombre de pratiques qui relèvent des us et des coutumes. C'est-à-dire que même en cas de Covid, il est difficilement concevable que l'on ne pratiqua pas un certain nombre de rituels. Il y a des rituels qui nécessitent que l'on juge la cause de la mort. Que l'Assemblée se prononce sur le mode d'accompagnement du décusus.
Certains experts expliquent cette situation inhabituelle dans la gestion des cas suspects ou avérés de Covid-19. C'est une maladie très contagieuse et la prudence est de mise, comme lors des précédentes épidémies de fièvre hémorragique Ebola. Dr Constantine Tienkou, médecin généraliste.
L'OMS a préconisé un temps de transit très court entre le décès et l'enterrement pour limiter le contact entre le corps et ceux qui manipulent et gère les corps. Ceux qui vont gérer les corps doivent être bien formés et prendre des mesures préventives pour ne pas propager l'infection.
L'OMS appelle à respecter la dignité des défunts, leur tradition culturelle et religieuse. Cependant, d'autres mesures empêchent le dernier hommage aux disparus, comme les règles de distanciation sociale, les interdictions de rassemblement ou les couvre-feux nocturnes. La situation est encore plus compliquée pour les personnes décédées à l'étranger du coronavirus. Dans un contexte de frontières fermées, les familles doivent parfois se résoudre à enterrer les disparus loin de leur terre natale. Un sacrilège. Patrice Nganang, spécialiste des études africaines, à la Stony Brook University de New York.
Le culte du crâne oblige à maintenir le corps dans la concession familiale qui aura été transformée en caveau. Ça fait qu'il y a toujours un besoin de retour vers cette case. Évidemment, avec Covid, cette tradition aura été chamboulée.
Le Covid-19 est donc une maladie cruelle. Elle inflige une double peine aux familles des victimes. Déjà, la peine de perdre un être cher qui, à sa mort, n'est entouré par personne, et la peine de ne pouvoir lui rendre un tout dernier hommage dans le respect de ses propres traditions.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus ont un impact négatif sur la presse. Certains responsables de médias privés procèdent à la réduction de salaire de leurs employés et se débarrassent du personnel non essentiel. Les responsables des radios et télévisions privées affirment qu'ils risquent de fermer si le gouvernement ne leur vient pas en appui. Le point avec André Kolmajingar, le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Depuis l'avènement du nouveau coronavirus avec son corollaire des mesures barrières, les journalistes tchadiens, surtout ceux des médias privés, broient du noir. Certains journaux revoient leur production à la baisse en raison de la mévente et réduisent de manière drastique le salaire de leurs employés, comme en témoignent quelques rédacteurs des journaux.
On produit les journaux, mais les gens sont méfiants pour acheter les journaux. Parce que pour eux, mais à travers les journaux, ils peuvent être contaminés.
Avant, nous produisons 1500, nous sommes obligés de réduire à 1000. Il y a 1% de salaire qui est amputé, d'aucuns à 20%, d'autres 30% ou 40%.
Certaines radios privées, en revanche, augmentent leur temps d'antenne pour sensibiliser la population au respect strict des mesures barrières. Denama de Yolande dirige les programmes de la radio Arc-en-Ciel, une radio confessionnelle.
On a prolongé nos heures d'antenne, mais on n'a pas eu de financement ni d'aide pour combler ces trous. On le fait avec nos moyens de bord. On sait l'heure où on quitte la maison pour venir, mais l'heure où on rentre, on ne le sait pas.
Jimmy Wichier, directeur de publication du journal Aluida, un média en ligne, lui met une partie de son personnel au chômage technique.
On était obligé dans un premier temps à réduire l'effectif des journalistes qui travaillent à la rédaction, surtout les collaborateurs externes et quelques personnels non essentiels. Sur le plan financier aussi, on ne reçoit pas assez d'annonces et de publicités qui constituent la force principale de chaque organe de presse.
Si quelques journaux tiennent encore le coup, c'est un travail de sacrifice, estime Samori Ngaradoumbé, président de l'association des éditeurs de la presse privée du Tchad.
Évidemment, il y a des amines déjà qu'on ne voit plus souvent sur le marché. Si nous on ferme les portes, qui va porter le message nécessaire aux populations? Il y a un sacrifice qui est là. C'est au mérite des journalistes, il faut le reconnaître cela.
Pour le Bloujita, Nathan, qui dirige une organisation de journalistes reporters, la presse tchadienne est en train de mourir à petit feu si les autorités ne lui viennent pas en aide.
Aujourd'hui, tous les journaux sont à genoux. Il y en a qui sont menacés même d'expulsion parce qu'ils ne payent pas leur loyer. Il y a la plupart des journaux qui ne peuvent plus produire. Quand bien même, ils ont parfois des maquettes entre les mains, mais ils ne peuvent pas aller à l'imprimerie parce qu'il y a des dettes encore à payer. Donc, effectivement, il y a beaucoup de journaux, des radios et des télévisions qui, tels que nous voyons dans les jours à venir, risquent de fermer les portes parce que la situation est intenable.
Les responsables des télévisions et radios privées du Tchad demandent au gouvernement un appui financier à ces médias. Mais Kondo Sony est le président de l'Union des radios privées du Tchad.
La télévision privée du Tchad et l'Union des radios privées du Tchad, après évaluation de la situation, accordaient un sursis de 3 jours à compter du lundi 18 au nouveau comité afin d'accéder à nos revendications. À défaut d'une réponse favorable, tous les médias privés se verront dans l'obligation d'engager d'autres actions conséquentes.
Le président Déby vient de mettre sur pied par décret un comité de gestion des crises sanitaires placé sous son autorité en lieu et place de la cellule de veille qui a montré sa limite dans cette lutte. Selon le communiqué publié ce week-end par les autorités médicales, le Tchad enregistre 503 cas d'infection à COVID-19 avec 53 décès. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, après une première tentative l'année dernière, la statue du président Thomas Sankara trône désormais au Conseil de l'Entente à Ouagadougou. La première version avait été vivement critiquée et le comité du mémorial Sankara a été obligé de demander à l'artiste de reprendre l'œuvre. Cette fois-ci, la nouvelle statue semble satisfaire beaucoup, mais ne met pas fin à la polémique sur la ressemblance. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Un an après son premier dévoilement, la statue de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, est désormais au Conseil de l'Entente, lieu où il avait été tué, ainsi que 12 autres de ses compagnons le 15 octobre 1987.
Toute œuvre humaine n'est pas parfaite.
Innocent Nana, neveu de Thomas Sankara.
Nous, la famille, nous saluons. C'est déjà l'engagement, c'est déjà le courage, l'honnêteté, c'est ce que nous saluons d'abord.
Le premier dévoilement de la statue en présence de John Jerry Rawlings, ancien président du Ghana et ami de Sankara, avait suscité de fortes critiques. Beaucoup estimaient que la statue avait peu de ressemblance avec Thomas Sankara. L'œuvre de 8 mètres de haut, pèse 13 tonnes, a donc été dévoilée d'image. On voit le capitaine Sankara en tenue militaire, le poing serré, la main gauche levée. Roland Compaoré apprécie la nouvelle statue.
Le verre abouti parce que, et il sera encore plus abouti que cela, pour des années et des années, pour des siècles et des siècles. Mais cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Ouais, tout le monde est content parce que vraiment, ça ressemble vraiment à Sankara.
Kalouna, une musicienne qui s'est surnommée la fille de Sankara, était aussi à cette cérémonie.
Au début, ça ne ressemblait pas à Sankara, mais actuellement, j'ai vu l'image de plusieurs côtés et je salue l'œuvre et toute l'équipe.
Le sculpteur lui explique ce qui n'avait pas marché.
Dans mon pays, malheureusement, le marché public est soumis à certaines exigences.
Jean-Luc Bambara.
Et pour obtenir un marché, il faut se plier à ces exigences du marché public qui donne 120 jours. Donc j'ai disposé de 120 jours pour réaliser cette statue. Vous savez, dans mon pays, il fait souvent excessivement très chaud. Nous avons travaillé à partir de la technique de la cire perdue. La cire perdue est une matière qui est très sensible à la chaleur. Donc au moment, malheureusement, de la réalisation de cette œuvre, il faisait très chaud. Si bien que certaines parties de l'œuvre ont subi des déformations. Ce n'est pas une belle excuse, j'assume. Je ne dis pas aussi pour me disculper.
Du côté du comité mémorial Thomas Sankara, on pense déjà à parfaire d'autres statues de Thomas Sankara. Luc Damiba en est le secrétaire général.
Il se pourrait qu'il y ait d'autres statues faites avec de nouvelles technologies pour correspondre aux désirs des citoyens, parce que les citoyens veulent une photographie légalisée, conforme, exacte de Sankara sur chose. Mais pour l'instant, ce que nous voulons, voyons ici, ça a des traits qui ressemblent à Sankara.
La statue qui a coûté 150 millions de francs CFA, plus de 247 000 dollars américains, n'est qu'une petite partie de l'ensemble d'un projet qui ambitionne d'avoir une tour géante de 80 mètres, avec des infrastructures comme un musée, une bibliothèque, des salles polyvalentes, des commerces, un parc et bien d'autres infrastructures, selon les initiateurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Georges Léonard Stagnot, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Abdelrahman Dia. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Avec vous, Henri Francisque.